BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine par un détour par les marchés. Michaël Jacobi nous attend chez Oddo BHF. Bonjour Michaël. Séance un peu particulière ce matin, étant donné que les sorcières vont balayer le marché à la mi-séance, et on imagine que ça pèse un peu sur la tendance.
Alors effectivement, on a une journée assez technique et donc qui va accélérer au niveau des volumes traités aujourd'hui sur les rebalancements de ces sorcières. Effectivement, au cours de la journée, avec donc un volume qui va s'accroître au fil du temps et on a surtout une opinion assez négative sur la conjoncture qui commence un tout petit peu à peser depuis quelques jours et qui visiblement donne plus envie aux opérateurs d'appuyer sur la gâchette de la vente que de l'achat. Et aujourd'hui, la performance du CAC à moins 1,50 juste au-dessus des 6080 points du CAC en atteste clairement.
Voilà pour le regard que vous nous proposez sur le marché. Et puis quelques dossiers que l'on regarde avec vous ce matin. On commence par Vetoquinol.
Tout à fait. Donc le premier semestre Vetoquinol a été publié aujourd'hui, qui est légèrement en dessous des attentes, même si effectivement on est loin de la catastrophe. On est un peu en dessous, 2 millions d'euros sur le résultat opérationnel de la société. Et aujourd'hui, effectivement, vu les liquidités échangées sur les titres de small mid cap, donc qui font effet loupe, on est face à une performance vraiment dans le rouge sur Vetoquinol, qui performe actuellement autour de moins 12%, autour de 91 euros. On est vraiment face à une sévère prise de bénéfice. En revanche, comme je dis, sur un fond de volume très peu nombreux sur Vetoquinol, il n'y a que 8000 titres échangés à l'heure à laquelle on parle.
Et puis on reste entre guillemets dans ce domaine avec Virbac.
Tout à fait. Donc, on est face à un exercice à peu près similaire. Hein. Le premier semestre, lui, était de chez Virbac en ligne, hein, voire légèrement meilleur que ce qu'on pouvait attendre. En revanche, on a une dégradation du BFR qui, effectivement, impacte la position cash net du groupe. Et donc, le résultat est à peu près le même, malgré des résultats cette fois-ci plutôt bons. On a une prise de bénéfice assez marquée sur le titre Virbac qui performe aujourd'hui à moins 9% quasiment et 296 euros face également une défiance face à ce titre aujourd'hui malheureusement qui pose quelques interrogations sur le futur du cash.
Merci beaucoup Michaël Jacobi, Oddo BHF, qui nous accompagne chaque vendredi matin à 11h pour prendre le pouls de la séance en cours. Merci Michaël, bonne journée sur ce marché. Le CAC 40 pour le moment baisse d'un 46%, 6067 points. Tout de suite l'info éco avec Stéphane
BFM
Nicolo.
Business, l'info éco.
Et à la une, le taux d'usure va être relevé de façon bien proportionnée à la fin du mois. Déclaration du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce matin sur RTL. Avec la hausse des taux d'intérêt, ce taux d'usure est trop bas et serait à l'origine de nombreux rejets de dossiers, même pour les acheteurs les plus solvables. La Banque de France, qui annonce aussi une année 2023 difficile à passer, n'exclut pas une récession. L'activité pourrait osciller entre une hausse de 0,8% et un repli de 0,5%. Du PIB, des prévisions plus pessimistes que celles de Bercy dans son projet de budget. Le retour de la croissance prévue en 2024 avec une hausse de 1,8% du PIB. En Chine, l'économie résiste malgré les pénuries d'électricité et les restrictions sanitaires. Les ventes de détail progressent de 5,4% et la production industrielle gagne 4,2% en août. Mais pour la suite, les perspectives sont compliquées en raison de la crise de l'immobilier et du ralentissement des exportations. Après Vladimir Poutine, Xi Jinping va rencontrer ses homologues iraniens et turcs aujourd'hui. Les entrevues sont prévues en marge d'un sommet régional en Ouzbékistan. Hier, les dirigeants russes et chinois ont affiché leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens face aux Occidentaux. Berlin saisit les activités de Rosneft en Allemagne. Le géant pétrolier russe y gère 3 raffineries. Et cette mise sous tutelle va permettre au gouvernement allemand de sécuriser son approvisionnement. Elle prend effet dès aujourd'hui pour au moins 6 mois. En France, la journée va être très compliquée. Dans le ciel, les aiguilleurs sont en grève. Plus de 1000 vols sont annulés. Ils réclament des augmentations et des embauches. Un deuxième préavis a été déposé du 28 au 30 septembre. Et puis, FedEx annule ses prévisions annuelles en cause de la faiblesse du marché asiatique, des difficultés en Europe et un ralentissement de l'activité aux États-Unis. Le groupe engage en conséquence des mesures d'économie, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque matin pour vivre au rythme de cette actualité économique. Nous tout de suite, on se plonge au cœur des grandes thématiques qui font bouger les marchés.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé entre Frédéric Tassin et Stéphane Déo. Bonjour messieurs. Frédéric pour Aviva Investors France et Stéphane pour Ostrom AM. Votre regard d'abord sur cette tendance. On était revenu quasiment au 6003. On se disait bon bah finalement tout va pas si mal. Et puis là, en quelques jours, nous voilà en train de menacer les 6000. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric?
Alors nous, on ne croyait pas tellement au pivot de la Fed, hein, tel que le marché l'avait interprété lors des précédents discours de Powell. Donc on continuait à considérer que la Fed aurait une vision relativement agressive sur l'inflation, donc elle continuerait de manière agressive à monter les taux. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, puisque les chiffres d'inflation aux États-Unis ont encore battu des records. Donc c'est assez normal que le marché corrige face à un rallye d'été qu'on avait quand même un petit peu de mal à comprendre. Donc l'autre point, à notre avis, hein, qui impacte également ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des warnings aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, un peu plus sur l'activité. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que dans la chimie aux États-Unis, on a eu quelques warnings d'entreprises liés à l'activité européenne. Pour l'instant, on n'a pas de warning de la chimie européenne pour l'activité européenne. Mais on commence à avoir quand même quelques entreprises qui préviennent à la fois sur l'activité et puis en filigrane sur les niveaux de marge. Et tout ça fait sans doute prendre conscience au marché que les anticipations de croissance de résultats telles qu'on les a dans les modèles pour... 2022 et 2023 sont sans doute un peu élevés. Donc cette correction tient compte sans doute d'une politique monétaire qui restera durablement plus restrictive.
Stéphane ?
Oui, c'est un peu la même histoire sur les bénéfices des entreprises. Effectivement, nous on pensait que les attentes étaient trop basses en début d'année. Il y a eu un ajustement qui a été assez remarquable hein, sur les attentes de résultats. Et comme d'habitude, le marché surajuste probablement. Donc là, on est un petit peu trop gonflé probablement sur les attentes de résultats. Il y a aussi deux grosses incertitudes. Vous avez parlé le pivot de la Fed qu'on attend toujours. Donc, on va continuer à attendre un petit peu plus longtemps à cause des chiffres d'inflation. Tant qu'on n'aura pas ça de manière nette, je pense que le marché ne peut pas vraiment rallier. Et puis le deuxième point, c'est évidemment l'hiver qui nous attend. Alors nous, on ne croit pas au scénario catastrophe. On a une petite récession en fin d'année. Mais c'est vrai qu'il y a une probabilité, enfin il y a le scénario alternatif très très noir et plausible, même si ce n'est pas notre scénario central de loin. Et tant qu'on aura cette épée de Damoclès, c'est difficile de voir des actifs risqués repricés de manière très très nette, même si les primes de risque incluent, à mon sens, déjà énormément de mauvaises nouvelles.
Alors, intéressons-nous justement à ces questions de prix, de banque centrale, et notamment, puisque la semaine prochaine, nous avons cette réunion de la banque centrale américaine. L'inflation américaine, c'était la semaine dernière, est donc ressortie à 6,3% en août, et donc ça a copieusement fait remonter les probabilités de hausse de taux. Alors, pour la 75 points de base, c'était 100%, mais là, ça faisait bien longtemps, je pense qu'on était à 100%. En revanche, pour celle de 100 points, on a déjà dépassé les 35%. Quelle est votre analyse, Frédéric ?
Alors nous, on reste sur 75.
D'accord.
On reste ancré sur 75. C'est vrai que l'inflation aux États-Unis a une composante qui est assez complexe, notamment l'inflation des services, puisque on voit que les salaires tirent très fort. Donc pour arriver à infléchir cette inflation salariale, il faut que le taux de chômage remonte. Les experts pensent qu'il doit remonter au-delà de 5%, voire même parfois tutoyer les 6% avant de pouvoir commencer à avoir une inflation salariale. Et de facto, Quand on interroge les entreprises européennes qui ont des activités aux États-Unis, on se rend compte que la tension sur les salaires est extrême. On discutait il y a peu de temps avec une entreprise de services à valeur ajoutée qui a des activités aux États-Unis et nous disait qu'un junior aujourd'hui aux États-Unis, ça se recrute à 180 000 dollars. Donc on voit bien que tout le mouvement aujourd'hui sur l'inflation salariale est bien embarqué et que pour pouvoir arriver à infléchir la tendance, il va quand même falloir que l'argent continue à monter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des indicateurs comme quoi cette politique fonctionne. On a M1 aux États-Unis qui, pour la première fois depuis longtemps, passe en territoire négatif, aidé en cela aussi par le quantitative tapering. Donc certaines mesures commencent timidement à produire des effets. Mais il y a fort à parier que la politique monétaire de la Fed devra continuer à être restrictive avant d'avoir des effets réels, directs, sur certaines composantes de l'inflation.
Votre analyse, vous, Stéphane, 75, 100, pourquoi ?
Plutôt 75, nous aussi. D'accord. Je pense que 100 est excessif. Sur l'inflation, je vais me permettre d'être pas tout à fait d'accord. Les chiffres d'inflation de la semaine dernière étaient mauvais, très clairement, ils étaient élevés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais souvent, quand vous avez un point d'inflexion dans l'économie, vous n'avez pas tous les indicateurs qui passent du rouge au vert immédiatement comme un seul homme. En fait, on commence à voir des premiers signes sur les indicateurs avancés sur l'inflation de retournement de tendance. Vous avez l'indice des prix industriels, le PPI, par exemple, qui a baissé de manière assez nette. Donc, quand vous avez des prix industriels qui se modèrent, ben, normalement, ça a un impact sur le CPI.
Et il se modère ou il baisse ?
L'inflation a baissé. Donc, ça veut dire que les prix ne baissent pas, ils montent moins vite qu'ils ne montaient avant.
D'accord.
Donc,
ça a son importance.
Et ça a son importance. Vous l'avez dit, il y a M1 qui a baissé. Sur les enquêtes dans l'industrie, on commence à voir les prix importés qui commencent à baisser. Si vous regardez, je regarde le trafic transatlantique ou transpacifique, le coût du transport a été divisé par 2 ou par 3 parce qu'on était à des niveaux stratosphériques. Donc on commence à voir, vous voyez, c'est encore très très préliminaire.
On commence à modérer.
Mais on commence à voir quelques signes avant-coureurs que peut-être l'inflation a touché un top et pourrait, d'ici la fin de l'année, commencer à donner des signes plus nets de baisse. Mais une fois de plus, c'est très très préliminaire, donc pour l'instant, il n'y a aucune raison que la Fed lève le pied, et donc on est toujours sur 75 points de base, à mon avis, pour la semaine prochaine.
Bon, n'empêche que 75, ou peut-être 100, on verra, ça ne va pas faire les affaires de la BCE, parce que là, on a longtemps parlé de taux neutres, après on a parlé de taux réels, on bombarde côté américain, donc niveau européen, il va falloir suivre, sinon on aura un problème sur l'euro.
On bombarde aussi,
ouais. Mais bon,
pas le choix.
C'est pas la même économie.
Sans mauvais jeu de mots, mais oui, bah, forcément, on sent que le discours des banquiers centraux reste au quiche, hein, donc bah, les hypothèses, là aussi, restent pour une poursuite du resserrement monétaire. L'inflation n'est pas forcément de même nature aujourd'hui en Europe. Elle est quand même très largement dirigée par les prix des matières premières, au premier rang desquels les prix énergétiques. Donc là, on verra. Ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'on a mis en place des mesures, ils sont tombés hier et avant-hier, pour essayer de courber un peu les prix de l'inflation énergétique, avec un mécanisme de redistribution, de ponction sur les générateurs électriques et les pétroliers, et de redistribution sur les ménages. Donc on verra quels seront les impacts de ces mesures sur l'inflation, mais pour l'instant, c'est vrai que tant que le prix du gaz reste au niveau où il est, tant que EDF n'a pas redémarré ses centrales, on a des sujets pour passer l'hiver, et on craint quand même que cette inflation continue à rester à un niveau élevé, au moins jusqu'en mars l'année prochaine.
La BCE, gênée ou pas par la marche forcée de la Fed ?
Oui, gêné. L'euro yoyote autour de 1. Il ne faudrait pas que ça glisse beaucoup plus vite. À un moment donné, ça peut devenir problématique, effectivement. Moi, il y a une donnée qui est un peu passée sous silence et qui me semble importante, c'est qu'on a eu les coûts salariaux, donc les salaires en zone euro qui ont été publiés cette semaine. On a dépassé 4% d'inflation. Moi, je me souviens, je parlais de 4% d'inflation au début de l'année, on me traitait de fou. On y est déjà. Dès le deuxième trimestre. Donc, il ne faut pas faire du copier-coller des États-Unis, mais il y a très clairement une boucle salaire-prix qui est en train d'émerger petit à petit en Europe. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la BCE. Une fois de plus, hein, on n'est pas au niveau des États-Unis, etc. Mais qu'on soit déjà à 4% dès le deuxième trimestre de cette année, honnêtement, même pour des gens comme moi qui étaient assez bullish, c'est une surprise. Et ça, c'est vraiment un chiffre en rouge qu'on agite devant le nez de la BCE, parce qu'ils ne peuvent pas tolérer des chiffres plus élevés.
Oui, ils ne peuvent pas tolérer des chiffres plus élevés, et puis ils ont aussi cette problématique de l'euro. Qui, d'ailleurs, on dit l'euro est un problème depuis quelque temps. Là, il ne faudrait pas que ça baisse trop. Mais si ça baisse trop, ça deviendra aussi proportionnellement une difficulté pour la Fed. Enfin, donc, si le dollar monte trop, on voit quelques entreprises américaines qui commencent un peu à lever le doigt en disant.
Mais il y a le sujet de la compétitivité. Hein. Sans doute que derrière les warnings de certaines industries américaines concernant leurs opérations en Europe, il y a ce sujet de compétitivité, bien évidemment. Et au demeurant, la réciproque, c'est que les entreprises européennes qui ont des activités en dollars s'en sortent plutôt bien. Et on pense d'ailleurs que la contribution des devises dans les chiffres qui ont été publiés au premier semestre n'était pas complètement nulle en Europe, et donc ça devrait continuer sur l'ensemble de l'année. Mais oui, ça va commencer à devenir un sujet pour la compétitivité industrielle des boîtes nord-américaines.
Ça pose problème, ce dollar fort ?
Pour l'Europe, ça pose un problème. C'est de l'inflation importée, en particulier sur les prix de l'énergie. Donc, en fait, il y a une espèce de boucle infernale qui se met en place.
Après, mais de l'autre côté ?
De l'autre aux États-Unis, c'est plus une question de compétitivité, effectivement. Quand on regarde les prix importés, ils commencent à se tasser. Et je vous le disais, sur les enquêtes dans l'industrie, les prix des inputs ont tendance à se modérer énormément. Et je pense qu'il y a une grande partie qui est liée à ça. C'est la force du dollar, ça vous coûte moins cher d'importer des pièces détachées ou des inputs de l'extérieur. Donc c'est vraiment une question de volume aux États-Unis, c'est-à-dire que vous perdez en compétitivité, donc en part de marché en exportation, alors qu'en Europe, c'est plus une question de prix, c'est-à-dire que l'euro faible, qui est l'inverse, c'est des prix importés, et donc vous augmentez la spirale inflationniste, en fait.
Voilà pour nos deux grandes banques centrales. Et puis, on a une autre zone qui pose question, c'est la Chine. Là aussi, il y a une certaine forme de marasme économique, de mesures de soutien qui peinent un peu à convaincre. Et puis, des questions politiques. Il y a le congrès du Parti communiste chinois qui arrive. Et puis, on voit là ces rencontres à haut niveau à l'international. Première sortie de Chine pour Xi Jinping depuis la pandémie. Hier, c'était Vladimir Poutine rencontré. Et puis, aujourd'hui, il y aura du côté de l'Iran et du côté de la Turquie. Qu'est-ce que vous pensez de la Chine ? Est-ce que vous vous en inquiétez ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que vous êtes prudent ?
Alors pour nous, à l'heure actuelle, c'est plutôt un sujet de prudence. On est notamment assez prudent sur le consommateur chinois. On a quand même plusieurs niveaux d'alerte en discutant avec des entreprises européennes qui sont là pour le coup extrêmement dépendantes du consommateur chinois. Très récemment, c'était pas le cas lors de la publication des chiffres du premier semestre, mais très récemment, on constate une inflexion dans le discours. Alors, c'est pas que la tendance est en train de s'inverser, c'est que la visibilité sur le train de consommation en Chine, pour le coup, est en train de s'amoindrir. Donc, les entreprises deviennent plus prudentes. On efface quand même une absence de mécanismes massifs de reprise. Donc, ils ont un peu bricolé les taux directeurs, mais sans doute pas de manière suffisante pour insuffler de l'expansion économique. Donc il faudra sans doute attendre le congrès du Parti communiste pour voir si d'autres mesures peuvent être mises en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt un sujet d'inquiétude. On est assez précautionneux. Et je crois qu'on citait lors du point économique le warning de FedEx. FedEx est l'entreprise la plus impactée par un éventuel ralentissement en Asie-Pacifique. Et typiquement, on verra les commentaires de FedEx lors de la communication sur les résultats cet après-midi. Mais c'est quand même un point là aussi qu'il convient de surveiller.
La Chine.
Je pense qu'il y a un autre
vaste
élément.
Sujet.
Ouais, je pense qu'il y a un autre élément qui est l'immobilier en Chine. Donc on sait qu'il y avait une bulle, etc. La probabilité que la bulle explose et qu'on ait un Lehman chinois, pour moi, reste faible. Enfin, il faut jamais l'exclure, mais on sait jamais. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est que le secteur immobilier, de manière générale, a rajouté 1 à 2 points de croissance sur le PIB chinois depuis 2 décennies. Bon, mais c'est 1 ou 2 points de croissance, on peut l'oublier. Ça veut dire que le secteur immobilier va continuer à croître, mais à un rythme beaucoup, beaucoup plus faible.
On peut l'oublier, c'est-à-dire qu'on retraite...
On
retranche ces 1 à 2 points du chiffre prévu, ou il est déjà retranché ?
Ça veut dire que dans le futur, vous avez un secteur majeur de l'économie qui vous tire plus vers le haut. Et donc, votre croissance potentielle, elle descend très vite sur... Nous, on pense que la croissance tendancielle de la Chine, elle sera plus proche de 3% à la fin de cette décennie. Ça, c'est un point. Il y a un autre point structurel dont je parle régulièrement, c'est que cette année, pour la première fois, la population chinoise devrait baisser. C'est-à-dire que la mortalité devrait dépasser le nombre de naissances.
Et ça, ce ne sont pas des tendances, enfin, ce sont des tendances très lourdes. Hein,
alors, le nombre de personnes en âge de travailler baisse déjà depuis 2015, grosso modo. Donc, on a une population active qui se réduit. Donc, ça veut quand même dire qu'on a des problèmes de court terme. Il y a le confinement, il y a la consommation, effectivement, qui n'a pas l'air en pleine forme. Mais il y a aussi des problèmes plus structurels, c'est-à-dire que malheureusement, la croissance à 10% qu'on a connue il y a 15 ans, c'est fini. On est plutôt sur un pays qui a énormément progressé, arrive à un niveau de richesse qui est plus élevé, et donc forcément, la croissance tendancielle, elle est de facto beaucoup plus faible maintenant.
Voilà les grandes zones brossées. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de se pencher aussi sur nos portefeuilles, sur la façon dont on s'expose un petit peu à cette catégorie action ou à cette catégorie entreprise. Donc, on peut parler aussi éventuellement de l'obligataire. Comment est-ce que vous présentez un petit peu la fin de cette année? Comment est-ce que vous réglez le curseur? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous pourriez conseiller nos auditeurs, nos téléspectateurs ce matin qui se disent finalement mon portefeuille n'a pas trop morflé cet été, je peux peut-être essayer de finir dignement l'année?
Alors c'est vrai que les débats dans les équipes sont intenses, hein, parce que je crois que ça a rarement été autant débattu. Alors on a un consensus qui est quand même très très noir, hein, parce que voilà, le mot récession est au coin de toutes les lèvres. Je crois que le cash dans les SICAV exposés à l'Europe n'a jamais été aussi élevé, donc et le PE du marché en Europe est entre 10 et 11. Donc on a déjà pricé un tas de mauvaises nouvelles et les investisseurs sont extrêmement réfractaires aujourd'hui à remettre de l'argent au travail. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que, alors certes, on nous décrit une récession qui devrait arriver, elle est encore relativement hypothétique. Hein, donc la probabilité n'est pas complètement nulle, mais elle est hypothétique. Et notamment, elle se matérialiserait si on devait demain avoir des coupures de gaz. On les aura sans doute probablement, qui pourraient impacter les industries, notamment l'industrie allemande. Et on a constaté également récemment un fait relativement intéressant, c'est que quand on regarde la consommation industrielle de gaz en Allemagne, je crois que les chiffres étaient en mai ou en juin, sur un an, elle a déjà baissé de 20%, avec une production qui, elle, n'a pas bougé. Donc, ce qu'on se dit, c'est que certaines entreprises ont déjà sans doute délocalisé une partie des actifs de production là où elles pouvaient le faire pour rendre leur production moins dépendante vis-à-vis du gaz russe. Ce qui fait que la probabilité d'avoir une récession extrêmement forte si jamais le gaz russe venait à être coupé est peut-être un peu plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois. Et ensuite, quand on regarde les valorisations des actifs, nous on trouve que les marchés actions sont assez mal cylindrés. On continue à avoir des valeurs défensives qui traitent très liées à la consommation des ménages, qui traitent à des niveaux extrêmement élevés. Et nous, on reste prudent sur la consommation des ménages, y compris en zone euro, hein, même si les salaires commencent à monter. On se dit qu'on n'est pas complètement à l'abri de mouvements de trading down, à savoir les consommateurs qui déplacent leur consommation vers des produits à moindre marge. Et de l'autre côté du spectre, on a des valeurs industrielles qui ont déjà acté dans leur valorisation une grosse partie du ralentissement industriel. Donc on se dit là-dedans, on peut trouver des valeurs qui sont alors certes cycliques, mais également sensibles à des cycles beaucoup plus longs, la transition énergétique, voire le vieillissement de la population, qui traitent à des niveaux de multiples relativement intéressants sur lesquels on peut remettre un peu d'argent au travail. Donc aujourd'hui, on commence à trouver que des primes de risque sont un peu exagérées sur certains types de titres, et on trouve intéressant d'aller les capturer, y compris au sein de la sphère cyclique.
Alors,
eh bien, je vais raconter à peu près la même histoire, donc je vais essayer de prendre d'autres
exemples. Mots, c'est ça.
Voilà, exactement.
Non, mais c'est intéressant de voir que les avis sont partagés aussi.
Le premier point, c'est effectivement le scénario est extrêmement noir. Il y a un niveau de pessimisme qui est très très élevé. Et donc, effectivement, on a des primes de risque qui sont, j'allais dire, déraisonnables, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais qui sont très, très élevées. Alors, vous avez parlé d'actions, je vais prendre l'exemple du crédit. Sur le high yield, vous avez des CDS au-dessus de 500 points de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de défaut implicite attendu par le marché sur les 5 années qui viennent est supérieur à 35%. En gros, le marché vous dit, d'ici 5 ans, il y aura une entreprise sur 3 qui aura déposé son bilan. Si c'est le cas...
C'est pas très sympa.
Ah, si c'est le cas, 2009-2011, c'était un pique-nique dans le parc, c'était un petit truc sympathique entre amis. Donc, on est sur des primes de risque qui sont très élevées, et effectivement, sur les actions, quand on fait les calculs, on a une probabilité de récession extrêmement élevée qui est déjà inclue dans les prix. Donc, cette belle histoire, ça vous raconte une histoire où il faut prendre du risque et à moyen terme, vous aurez certainement une performance qui sera relativement bonne. Le problème que j'ai avec cet argument-là, c'est le manque de visibilité. Tant qu'on aura l'épée de Damoclès d'une crise énergétique grave cet hiver, qui une fois de plus, là aussi, on est à peu près en ligne, je pense, avec ce que vous disiez, qui n'est pas notre scénario central, mais si je vous dis j'ai 20% de probabilité de me faire écraser en sortant dans la rue, vous n'allez pas regarder les 80%, vous n'allez peut-être pas sortir dans la rue. Tant qu'on aura ce risque-là, même si ce n'est pas le scénario central, même si la probabilité est faible, c'est très difficile de raconter une histoire de rebond des primes de risque ou de normalisation des primes de risque. Donc, à horizon fin d'année, on reste prudent. Mais moi, je pense, pour revenir sur votre diagnostic, on est assez en ligne que ben, y a de la valeur qui apparaît de plus en plus. Et on a ce qu'on appelle dans notre jargon des valuation spreads qui sont monstrueux. C'est-à-dire l'écart entre les valorisations les plus élevées et les plus faibles. Là, vous avez des banques qui se traitent à 5 fois les earnings. Hein, donc y a un sujet, je pense.
Il faudra sans doute purger un petit peu l'excès d'optimisme dans les anticipations. Donc ça viendra avec les chiffres qui seront publiés. Sur le trimestre et avec les révisions des anticipations. Donc on sait, comme on le disait tout à l'heure en préambule, que le consensus doit s'ajuster.
Mais
déjà sur des niveaux qui sont très faibles.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé ces regards sur ces banques centrales, sur ces taux, sur cette inflation et sur ces entreprises. Frédéric Tassin, donc, Aviva Investors France, Stéphane Déo pour Ostrom. Dans un instant, un détour par les marchés. Et puis, vous n'oubliez pas les podcasts qui vous attendent sur le site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on continue bien évidemment à vous donner un maximum d'expertise dans tous les domaines et on file d'abord sur le marché pour suivre cette journée très technique grâce à Stéphane Sauduteil qui regarde tout ça pour nous depuis Technibourse. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour à
tous. Bah écoutez, on voit les sorcières approcher doucement mais sûrement et le marché parisien qui pour le moment est toujours dans le rouge assez vif même, moins 1,5 et on menace entre guillemets les 6000 points.
C'est vrai que la pression reste toujours baissière, même si on est une dizaine de points au-dessus hein, de notre intervention avec Jean-Louis à 10h30. On est quand même allé chercher plus bas, juste avant 11h. On a quasiment touché les 6050 points. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une grosse zone de support entre 5980 et 6030 points. On aura certainement des tentatives de rebond sur cette zone si on devait aller un peu plus bas dans les prochaines heures. À noter aussi hein, quand même l'ouverture ce matin d'un gap à la baisse assez important entre 6107 et 6143 points, un gap de 36 points. Alors ça rentre pas trop dans le théorème des gaps à 50 points hein, qui sont souvent comblés très très rapidement, mais bon, c'est vrai que en cas de correction technique, on peut-être aller chercher les 6100 points, voire grignoter un petit morceau de ce gap et monter jusqu'à 6120 points. Il faudra voir effectivement avec l'ouverture de la bourse américaine si ces sorcières permettent au marché de se reprendre un petit peu ou si on va aller chercher cette fameuse zone de support très très importante à mon sens quand même, 5980, 6030 points. Sur les autres marchés, on voit quand même l'euro-dollar se rapprocher de nouveau de la parité parfaite. Hein. On a, malgré la hausse des taux d'intérêt, l'euro-dollar se tient. On n'arrive pas à aller chercher de nouveaux points bas. Alors, est-ce que c'est une saturation baissière? Peut-être un petit peu à très court terme, puisqu'on a quand même beaucoup baissé ces derniers mois, voire même ces deux dernières années. On notera aussi quand même la petite faiblesse. Et là aussi, c'est dû à la hausse des taux d'intérêt américains de l'or et de l'argent. On a cassé quelques niveaux techniques assez sensibles. Sur l'or, on est passé en dessous des 1675 $, qui était vraiment un support très important depuis de longs mois même. Donc il faudra surveiller si on s'enfonce un petit peu plus bas. Alors il y a encore des supports pour autant casser la tendance haussière de fond vers les 1600 et 1500. Ça sera les derniers retranchements qu'il faudra éviter de rompre, les derniers niveaux qu'il faudra éviter de rompre. Et puis on a le pétrole également, le Brent qui a baissé quand même hein, ces dernières semaines. Il a eu une correction technique, mais qui n'a pas été capable de s'installer en clôture hebdomadaire au-dessus des 100 dollars. Donc là, il faudra surveiller les 100 dollars. Il faudrait mieux pas que le pétrole repasse au-dessus de 100 dollars, parce que là, ça pourrait réactiver le mouvement de hausse de fond. Mais c'est vrai que dans la tendance actuelle, il y a un gros niveau vers 86,70. Et s'il était cassé, eh bien, on pourrait peut-être aller chercher les 77 dollars. Ça serait un petit ballon d'oxygène dans un monde bien triste.
Merci beaucoup. Stéphane Sauduteil, donc, depuis Technibourse, au CAC 40 qui perd en ce moment 1,46%, le CAC 40 à 6067 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et ce sont les équipes de Morningstar qui nous accompagnent chaque vendredi. Et aujourd'hui, c'est Mara Dobrescu. Bonjour Mara.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler des meilleures sociétés de gestion en Europe.
Oui, alors on vient de publier une étude sur les sociétés de gestion en Europe. On a pris les 100 plus grands asset managers sur la base des actifs sous gestion pour les fonds qui sont disponibles à la vente en Europe. Et nous les avons classés selon différents critères. La capacité à retenir les talents, la qualité de la gamme de fonds, la transparence. Par exemple, on a vérifié si les sociétés communiquent bien sur les noms de gérants de leurs fonds. On les a classés par frais de gestion et aussi sur les notes ESG. Donc pour savoir à quel point leur gamme est impliquée sur les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Et du coup, quels sont les enseignements de cette étude ?
Alors, tout d'abord, sur la qualité de la gamme, on a regardé la proportion des fonds de chaque société qui reçoit une note des analystes Morningstar positive, donc bronze, silver ou gold. Parmi les meilleures sociétés de ce point de vue-là, on retrouve par exemple la société britannique Fundsmith, aussi des sociétés beaucoup plus grosses comme par exemple PIMCO, un géant et expert de la gestion obligataire. Donc, beaucoup de fonds qui sont disponibles en Europe reçoivent des notes positives. Et puis, on note aussi la présence de Vanguard. Donc, Vanguard se spécialise des fonds passifs à bas coût, qui eux aussi reçoivent souvent de très bonnes notes parce qu'ils permettent d'offrir des solutions d'investissement indiciel simples, transparentes et efficaces aux investisseurs.
Alors l'un des problèmes dans cette industrie de la gestion d'actifs, c'est la capacité à garder les talents, les gérants. Quelles sont les meilleures sociétés de ce point de vue-là ?
Oui, alors sur cette métrique de la longévité des gérants, on a tout d'abord Artemis, c'est une société de gestion britannique où les gérants sont en place sur les fonds depuis en moyenne plus de 7 ans. C'est le meilleur résultat sur les 100 sociétés qu'on a analysées. Artemis est une société détenue par les employés. La plupart des gérants sont investis à titre personnel dans des proportions importantes dans leurs fonds. Donc ils mangent leur propre cuisine, comme on dit, et ça permet une longévité remarquable. Les sociétés MFS et Jupiter sont pas loin derrière non plus, avec des gérants qui sont en moyenne depuis plus de 6 ans à leur poste. Il y a aussi des sociétés de gestion françaises qui s'en sortent pas mal, comme Comgest. Là aussi, une société qui est détenue par les employés et par les fondateurs. Chaque membre de l'équipe de l'investissement accède progressivement à une partie du capital et ça favorise vraiment un alignement de leurs intérêts sur le long terme. C'est ce qui a permis notamment une grande stabilité des équipes au cours du temps.
On termine avec les questions ESG. Là, qui sort du lot ?
Alors, pour regarder ce point, on a regardé la proportion de fonds notés 4 ou 5 globes Morningstar chez chaque société de gestion. Cette notation en globe, elle est calculée par nous chez Morningstar à partir des inventaires de portefeuille. Donc, elle mesure le degré d'exposition de nos portefeuilles aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, 5 globes, c'est la meilleure note. Ça veut dire qu'un fonds est classé dans les 10% les meilleurs de sa catégorie avec le moins de risques ESG. Sur cette métrique, donc, on retrouve à nouveau Comgest, une gamme de fonds bien notés en matière d'ESG. 79% de leurs fonds ont 4 ou 5 globes Morningstar. On peut aussi mentionner Robeco, dont plus de la moitié des fonds affichent donc ce risque ESG inférieur à la moyenne. Robeco utilise une méthodologie d'analyse ESG maison, basée notamment sur les recherches de sa filiale Robeco SAM, qui est vraiment un pionnier en termes d'analyse extra-financière. Et c'est des analyses qui informent efficacement le processus de sélection de titres. Il y a aussi un engagement efficace avec les sociétés détenues en portefeuille. Ça veut dire que les gérants de Robeco s'impliquent activement pour changer les pratiques des sociétés, voire sanctionner un management qui ne serait pas à l'écoute des problématiques ESG.
Mara Dobrescu et Morningstar, chaque vendredi dans Idée de fond, pour nous éclairer sur ces questions liées à la gestion collective. Merci beaucoup Mara, bonne fin de semaine. Et donc à vendredi prochain, le CAC 40 perd 1,4%, 6072 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, nos experts répondent à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur notre mail bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et pour vous répondre, ce matin, retour en plateau de François Monnier pour investir. Bonjour François. Oh, bonjour. Et Raphaël Lucet pour Moneta Asset Management. Prêt ?
Prêt.
Allez, on démarre avec cette question que vous envoie Aurélien. François, quelle est votre valeur britannique favorite ? Ça, à force de regarder les obsèques de la reine, les gens rêvent de Britannique.
Oui, c'est peut-être la cause. Nous, ce qu'on aime bien chez Investir, c'est Diageo. Alors, ce n'est pas lié au décès de la reine, même s'il y a une suractivité dans les pubs depuis quelques jours. C'est au fait que, avec Diageo, on achète un numéro un mondial dans les spiritueux. C'est près de 200 marques, des marques bien sûr très connues, comme le scotch Johnny Walker, la bière irlandaise Guinness ou encore la vodka Smirnoff. C'est une activité qui est en croissance à deux chiffres, avec des belles marges. On est sur des marges opérationnelles supérieures à 28%. Et on a une visibilité pour afficher, je pense, une croissance encore à deux chiffres au cours de l'exercice actuel, voire au-delà. On observe une sorte de montée en gamme où les marques sont mieux valorisées, le public, les consommateurs sont prêts à acheter plus cher un produit de qualité. Donc il y a du pricing power, une inflation des coûts qui est somme toute modeste. Donc dans cet univers, en fait, on a un Nestlé par exemple qui subit davantage une pression à la hausse sur les prix, alors que dans les spiritueux, il y a plus de pricing power et les marges sont beaucoup moins attaquées. Donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont relativement élevés, mais tout à fait gérables. On est sur des multiples de cours sur bénéfices de 20 fois, mais on achète une belle visibilité d'une croissance à deux chiffres, un groupe très très bien géré. Et on l'a encore vu cet été, même si il y a des débats sur le pouvoir d'achat, on n'a pas vu de changement dans les attitudes de consommation de la part des clients. Donc,
parfois même l'inverse, on dit que la période de crise est assez
parfois même l'inverse.
Alors, favorable aux spiritueux.
Absolument, donc bien sûr il faut boire avec modération Cédric, mais sur l'action on peut y aller.
C'était pas dans la question d'Aurélien, mais puisque vous mettez Diageo sur la table, on a un comparatif en France, qui est Pernod.
Oui absolument, Pernod Ricard, je pense que c'est une bonne opportunité d'acheter du Pernod Ricard aujourd'hui.
Les métriques sont les mêmes que pour Diageo.
Les métriques sont les mêmes, on a un Pernod Ricard qui est davantage peut-être puissant en Chine. Pernod Ricard est numéro un largement, avec une part de marché monstrueuse de 45%. On a une activité qui est extrêmement dynamique aux États-Unis, où non seulement on a de la croissance, mais on a aussi des hausses de prix. Donc on est sur une activité qui est très très bien positionnée, et cette montée en gamme fait que on a un potentiel d'amélioration des marges et finalement une structure de coûts qui est relativement bien maîtrisée.
Vous regardez chez Moneta les valeurs britanniques ou pas ?
Je ne suis pas d'Ageo. On suit quelques valeurs britanniques.
Et il y en a quelques-unes, une que vous mettriez en avant ce matin
Oui, mais alors pas tout de suite. On a qu'on regarde de très près. D'accord. On a bien Johnson Services, qui est incomparable d'hélice. On pense qu'il ne faut pas se presser, mais elle est beaucoup moins chère. Il y a un beau potentiel de normalisation des marges. Et voilà, mais c'est attendre, parce que c'est pris aussi dans les problèmes d'énergie. Donc,
question de Martin. Raphaël, est-il surprenant que les indices actions résistent alors qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises... Non, pardon, excusez-moi. La question de Martin, elle est derrière moi. Est-il surprenant que
C'était le ouais. thème, peut-être.
Ouais.
Je pense qu'on en a bien traité dans le thème précédemment. Prudence, comme on l'a dit, avec un peu plus de cash, pas de valeur endettée.
On va récupérer la question de Martin qui a disparu dans l'histoire. On va passer à celle de David. Est-ce le bon moment pour acheter ArcelorMittal?
Je pense pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est tentant puisqu'on a des ratios cours sur bénéfices qui sont historiquement bas. On a un PER inférieur à deux fois les bénéfices, donc c'est la valeur la moins chère du CAC 40, mais on s'attend quand même à une forte dégradation de l'activité et des profits au cours de 2023. D'abord, on le voit, la demande, en tout cas la production d'acier s'est complètement retournée. On est sur une production d'acier mondial en repli de plus de 5% dans le monde entre janvier et fin juillet. On a quand même des sujets sur la hausse des coûts de l'énergie. Donc, moins de production, moins de demande, des coûts qui augmentent. Donc, on a un ArcelorMittal qui est en train de se mettre en position défensive. Ils ferment des sites de production. Ils ont fermé deux sites en Allemagne, bien sûr, où l'industrie automobile est en difficulté. Et puis, on a plus qu'un seul site qui fonctionne à Dunkerque. On a deux autres sites qui ont été mis, les hauts fourneaux, qui ont été mis en maintenance, etc. Ils vont mettre en stand-by, en arrêt... temporaire, on pense en Espagne un site. Donc voilà, donc tout doucement, ils essaient de contrôler leur structure de coûts en mettant en pause des sites. Ils vont réduire le travail temporaire qui permettait d'alimenter une suractivité au cours des mois. Mais là, on voit, voilà, l'environnement
c'est compliqué.
Est en train de se retourner. Avec une hausse, donc moins de chiffre d'affaires potentiellement, des coûts qui flambent. C'est difficile dans ce contexte-là de passer des hausses de prix auprès des clients. Donc nous, on préfère attendre et je pense que le titre risque encore de baisser.
J'imagine que vous n'êtes pas très séduit par ArcelorMittal.
Non, on n'est pas investi dessus. On a d'autres titres effectivement qui sont cycliques, qui nous sont moins chers et plus défensifs et sur lesquels on est positionné dans les portefeuilles. Dans lequel on essaie aussi de garder un équilibre, donc dans la poche des valeurs pas chères cycliques. On préfère mettre du Stellantis, des banques ou du pétrole que du ArcelorMittal.
Alors, question, on a remis la main sur la question de Martin qui se demande si le temps est enfin venu pour être actionnaire de CGG alors que le prix du pétrole se maintient à un niveau élevé.
Alors CGG, oui, c'est une histoire compliquée, c'est sismique, donc c'est en mer ou sur terre, aller essayer de cartographier les sous-sols pour voir s'il y a des réserves d'hydrocarbures et pouvoir les exploiter au mieux. Donc c'est une société qui a un parcours très difficile, moi je la suis depuis longtemps et je crois qu'elle a dû faire deux fois faillite déjà. C'est une société qui reste avec pas mal de dettes, donc qui est bien structurée, échéance 2027. Donc c'est pas la société la plus simple à valoriser. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2014, il y a eu la révolution du shale oil aux États-Unis qui a fait baisser les prix du pétrole. Les investissements en exploration de production ont beaucoup baissé. À titre d'exemple, en 2020, on était 58% inférieur en termes d'investissement dans l'exploration de production par rapport au pic de 2014. Et donc ça a des conséquences. Les matières premières sont des cycles longs. Quand on arrête d'investir, ça se voit pas tout de suite. Ça se voit 3 à 5 ans après. Et on voit, par exemple, aujourd'hui que l'OPEP Plus n'arrive pas à produire ses quotas. Ils sous-produisent de plus de 3 millions de barils par jour en comparaison à ce qu'ils devraient produire. Et donc il n'est pas improbable que l'année prochaine, les dépenses d'exploration production repartent. Et là, le levier peut être très fort parce que quand vous vendez des données, par exemple, que vous avez déjà tirées avant, comme on dit, elles ne vous coûtent pas grand-chose. Elles sont sur une étagère, vous les revendez. Donc la marge peut être très importante. Et ça peut aller très vite parce que CGG, c'est une petite capitalisation, à environ 500 millions, et qui fait que 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et Total devrait faire plus de 30 milliards de bénéfices cette année. Alors eux, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et donc si Total se dit, tiens, je vais mettre 50 millions de plus, et BP, Shell, en exploration pour renouveler les réserves, très vite, l'impact peut être très fort sur le chiffre d'affaires et donc sur la marge. C'est vrai que c'est toujours très difficile, c'est très cyclique, parce que comme c'est de la donnée, ça peut facilement être décalé. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a plus de chances, si je devais choisir entre plus 50 ou moins 50 sur les 12 prochains mois, dans l'environnement actuel de prix de l'énergie dont on se rend compte maintenant qu'elle est rare, je pense qu'il est plus probable qu'on gagne 50% que moins 50. Voilà, après, ça peut pas être une très grosse position, mais le rapport risque-bénéfice semble favorable.
CGG, ça vous inspire ou pas?
Oui, c'est un bon pari. Alors, on a un titre qui a déjà gagné 40% depuis le début de l'année, mais je pense qu'il ne faut pas regarder ça. C'est que si jamais ça fonctionne, si les compagnies pétrolières décident d'investir, c'est un titre qui peut doubler. Mais c'est que si jamais les compagnies pétrolières attendent et décalent leurs investissements, eh bien, le sujet de la dette va revenir sur la table, parce que c'est une société qui est très endettée. Alors, il n'y a pas d'échéance à court terme, mais il y a de la dette. Et donc, on se pose à chaque fois la question, et c'est une question qui revient à chaque présentation des comptes, à chaque fois que le management s'exprime, c'est est-ce qu'il y aurait une augmentation de capital ? Et donc, cette augmentation de capital est vécue un peu comme une pression à la baisse sur le titre. Et ça, je pense qu'il faudra à un moment donné craquer le sujet, et quitte à faire l'augmentation de capital, même si elle est un peu dilutive à court terme, pour évacuer le sujet. Donc, il y a un bilan qui est un petit peu fragile, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, un investissement, comme l'a dit Raphaël, de 50 millions pour Total, c'est rien, si je puis me permettre.
Effectivement.
Et c'est beaucoup pour CGG.
Question d'Annie, Raphaël. Je souhaite être exposé à la digitalisation et elle a l'impression que Soprasteria est un peu cher. Elle se demande si c'est un bon candidat à l'achat.
Alors oui, c'est vrai que c'est un thème qui est porteur, hein, qui ralentit pas d'ailleurs. Alors la star, hein, c'est un secteur qui est bien présent en France. Ouais. Là, on peut en être fier.
Pas mal de candidats. Hein.
Voilà, il y a Capgemini, hein, qui est un des leaders mondiaux. Puis après, on va dans des toutes petites, parfois Aubaine, Neuron, Infotel. Donc au milieu, il y a Sopra, qui est un peu entre les deux, un peu plus de 3 milliards de capitalisation boursière, qui est pas une star. C'est vrai que l'historique est pas le meilleur. C'est une société qui a une bonne croissance, mais démarre souvent un peu en retrait. Et c'est aussi une société qui, contrairement aux autres, a une division logicielle. Hein, les autres sont des sociétés de services purs. Elles disent on peut pas être jugé parti. On va pas faire du logiciel et ensuite essayer de l'implémenter. Et donc, Sopra a cette petite difficulté de positionnement. Ils ne sont pas d'accord. Ils pensent que c'est une bonne chose. Néanmoins, la valorisation est faible comparée aux autres. On doit être à un PER inférieur à 12 actuellement. Le momentum d'activité reste très bon. Hein, les activités de ce genre de société, hein, les anciennes SS2I, c'est de la migration vers le cloud. C'est du
on les appelait SS2I, aujourd'hui on les appelle ESN.
ESN, voilà, entreprise service numérique. Et puis, donc c'est vraiment au cœur de l'économie. C'est des choses qui se complexifient toujours, ça se simplifie jamais. Il y a toujours la tranche de software d'avant, puis on vient en mettre par-dessus. Donc il y a le cloud, mais vous avez encore votre mainframe d'avant. Vous devez faire de la cybersécurité de plus en plus, du soutien aux utilisateurs. Et donc finalement, très très bonne résistance. C'est également un secteur qui est agréable parce que c'est essentiellement de la vente de capital intellectuel humain et donc il n'y a pas d'investissement en dur et donc votre résultat net c'est du cash. Voilà, ça part pas dans les bois comme ça en disant bah tiens on a 10 de résultat net mais il me reste que 1 de cash, c'est parti en BFR ou autre. Assez actif en M&A, donc c'est une société qui peut-être un jour, alors à moyen terme, pourrait faire se racheter et qui à l'ambition de redresser sa division software pour s'aligner en termes de standards du marché, en termes de marge opérationnelle. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'options, valorisation faible et une belle tendance de long terme. Donc c'est ce qu'on appelle souvent du GARP, hein, gross at reasonable price. Donc c'est-à-dire une valeur de croissance, mais pas trop chère. Et donc ça a sa place dans un portefeuille.
Elle recueille votre suffrage aussi,
oui, on apprécie je valide tout ce qui a été dit. Après, nous, on préfère dans ce secteur-là Capgemini, qui est le leader, et Alten, qui a affiché historiquement, c'est le meilleur élève en termes d'historique de performance et de régularité des performances. Soprasteria, on a déjà été déçu un petit peu par le passé. Et pourquoi c'est pas dans nos favorites par rapport à Alten ou Capgemini, c'est qu'ils ont une exposition quand même au Royaume-Uni qui est assez importante en termes d'activité. Et si jamais Goldman Sachs a raison, parce que Goldman Sachs prévoit une inflation qui pourrait dépasser les 20% au Royaume-Uni à partir de janvier 2023, eh bien là, on aura un pays qui va, je pense, plonger en récession parce que 20%, c'est quand même difficile à gérer quand on voit qu'à 6%, en France, tout le monde est très
inquiet. C'est vrai qu'on a tout mis un peu le côté britannique sous le boisseau avec l'enterrement d'Elisabeth II.
Voilà, mais
la nouvelle première ministre, il va falloir que
l'activité économique est quand même en grande difficulté. Ouais. Donc, on va voir comment ils vont gérer cette inflation qui pourrait atteindre, voire dépasser les 20%. Donc, c'est des niveaux d'inflation qu'on retrouve dans les pays émergents ou dans les pays sous-développés. Donc, c'est vraiment un phénomène nouveau. Donc, il y a quand même un petit peu une inquiétude sur le marché britannique.
Question de Maëlys François qui veut savoir quelles sont vos valeurs moyennes préférées.
Alors, les valeurs moyennes, c'est vrai que les valeurs moyennes sont aussi en souffrance. Les investisseurs font plutôt les yeux doux aux grandes valeurs, aux grandes pondérations, grandes capitalisations, et ont tendance un petit peu à se délaisser de valeur moyenne jugée un peu moins liquide. Et donc, si jamais le marché devenait un peu plus compliqué, les investisseurs veulent pouvoir agir, interagir rapidement sur leur ligne. Mais il y a quand même des pépites, hein. J'en citerai deux qu'on aime bien. Il y a Ipsos. Ipsos, c'est quand même un champion du traitement de la data, des enquêtes. Et on est sur une croissance qui est à deux chiffres, des marges qui sont bonnes, hein. Il faut les 13% de marge opérationnelle. Et on l'a vu, hein, aux États-Unis, l'activité est extrêmement dynamique parce que les clients, qu'ils soient dans les médias, dans les hautes technologies ou dans les télécoms, sont friands d'enquêtes. Et on peut penser, c'est le pari qu'on fait, c'est que dans un contexte où la situation va probablement se dégrader, on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir besoin de comprendre ou de mieux comprendre le comportement des consommateurs. Savoir si jamais j'augmente les prix, quelles peuvent être les conséquences sur mes ventes, etc. Et donc, pour avoir cette compréhension beaucoup plus fine et beaucoup plus exigeante des consommateurs, eh bien, on aura besoin des acteurs comme Ipsos. Et puis, à l'autre bout, dans les valeurs moyennes, dans un tout autre secteur, c'est Katana. Donc, on est dans le bateau.
Un nautisme.
D'un nautisme avec des marques de prestige comme Bali. Et là, on est sur une société qui est complètement délaissée par les investisseurs. Ça a perdu 30% par rapport à son plus haut, alors que le carnet de commandes est garanti 2 ans d'activité, que les marges sont plutôt solides. Mais c'est vrai qu'il y a actuellement quelques difficultés pour produire normalement parce qu'on manque de main-d'œuvre, on manque de composants, même si ça n'a rien à voir avec le secteur de l'automobile ou des camping-cars. Dans le nautisme, on arrive à produire beaucoup plus, de façon beaucoup plus fluide, avec moins de heures. On est sur un titre qui est aujourd'hui sous-valorisé, ça se paye moins de 8 fois, et donc je pense que ça peut être intéressant de l'avoir aujourd'hui en portefeuille.
Voilà donc pour les valeurs moyennes. C'est un peu votre spécialité aussi, les valeurs moyennes. Vous en avez une ou deux à nous donner comme ça ?
Oui, bah, Ipsos, on est d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est une société qui a, même si ça ralentit, qui n'est pas très chère, capital ouvert, et puis qui fait la moitié de son chiffre d'affaires hors d'Europe. Donc ça coche beaucoup de cases. Et Katana, nous on préférerait Fontaine Pajot, voilà, pour bon. Différents critères, mais c'est deux idées.
Allez, il vous reste 2 petites minutes pour répondre à Bertrand. C'est marrant parce qu'on parlait d'Imerys en tout début de propos. Ben, on y revient pour terminer l'émission. Bertrand note qu'Imerys a annoncé 2 cessions significatives récemment, sans impact sur le cours, et il se demande si ces cessions sont une bonne nouvelle.
Alors, les cessions en tant que telles, c'est vrai que c'est une actualité forte. On peut saluer le travail du nouveau directeur général et CFO qui sont là depuis à peu près 2 ans, puisque ça a l'air de bien bouger. Il y a un repositionnement du portefeuille. Et donc, ces cessions des activités qui étaient soit en déclin, comme le papier structurel, soit très cyclique comme l'acier. Donc on a un peu moins de 30% du chiffre d'affaires qui va être vendu, c'est beaucoup. Premier point qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces cessions se font à un multiple de valorisation qui est supérieur au multiple du groupe. Alors que ça devrait être l'inverse, puisque c'était a priori les activités les moins attractives, et l'acier va être cédé à 9 fois l'EBITDA, alors qu'Imerys vaut 6 fois l'EBITDA en bourse. Ça, c'est un premier point positif. Ça va changer le profil du groupe, qui n'aura plus de dette et qui va être moins cyclique et avec potentiellement plus de croissance. Et alors enfin, le dernier point, alors là c'est pas annoncé mais on peut l'espérer, il va y avoir une journée investisseur le 7 novembre prochain, et Imerys a déjà communiqué depuis quelques temps, sans donner beaucoup de détails, mais on devrait en savoir plus, qu'une de ces mines en France, à Beauvoir, contient du lithium. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils savent depuis 50 ans. Ce qui a changé, c'est que maintenant, avec l'électrification, la demande de lithium augmente très fortement, et les constructeurs automobiles, par exemple, veulent sécuriser leur approvisionnement. Mais également, le prix du lithium a explosé, puisqu'on était, il y a 2 ans, à moins de 10 000 dollars la tonne, et on est aujourd'hui à plus de 70 000 dollars la tonne.
Et donc ça rend l'affaire...
Voilà, ce lithium qui était présent, mais bon, sans intérêt plus fort que ça, redevient sur le devant de la scène. Et comme Imerys n'aura plus de dette après ces cessions, Imerys va avoir les moyens de réinvestir. Et ils sont déjà présents dans le graphite pour les batteries. Maintenant, ils pourraient rentrer dans le lithium. Et donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de déception le 7 novembre.
Mais on croise les doigts, quoi.
Mais ça pourrait effectivement changer complètement le profil du groupe, avec un groupe qui se met plus avec des actifs réels miniers sur l'électrification. Et donc, à mon avis, au moins jusqu'au 7 novembre, ça devrait être un call intéressant à faire en bourse.
En 2 mots, vraiment, ça vous tente, Imerys, ou pas? Parce que c'est un titre qui est en baisse.
Hein. Oui, c'est un titre qui dépend du cycle, hein, ouais. Parce qu'ils sont tous en amont du cycle. Mais ils sortent en fait du papier pour aller sur la batterie électrique. Et le lithium dans le Massif Central, ça va permettre aussi à l'écosystème du Massif Central de revivre.
Merci à tous les deux d'avoir répondu ce matin aux questions des auditeurs. François Monnier pour Investir, Raphaël Lucet pour Moneta Asset Management. Bon retour messieurs, bonne fin de semaine. Dans un instant, 60 minutes business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Pour terminer la semaine.
Bon, on va quand même parler de la Banque de France qui assombrit ses prévisions pour 2023, hein, qui n'exclut pas une récession. On va voir quelles sont les conditions avec Nathan Cocampo et Jean-Marc Daniel. On reviendra aussi sur la grève des contrôleurs aériens. À partir d'aujourd'hui, 1000 vols annulés, des retards à prévoir. Quelles conséquences sur le secteur? On verra ça avec Jean-Baptiste Huette. Et puis on parlera de la rentrée littéraire. Cette rentrée littéraire, quel bilan après deux semaines de vente? Comment se présente l'année 2022? C'est Guillaume Husson qui sera avec nous. Et puis à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs.
C'est à suivre dans un instant sur BFM Business, 60 minutes business. Nous, on se donne rendez-vous lundi matin 10h. Je vous souhaite un très bon week-end. Le marché parisien qui perd pour le moment 1,31%, 6077 points.